Deutsche Welle. Droits et libertés.
Qu'est-ce que cela signifie d'être maire de commune, de faire le lien entre les citoyens et les autorités de l'État central? Et quels sont les défis spécifiques qui se présentent aux élus femmes? Autant de questions abordées cette semaine dans un entretien de Constance von Kotze avec Fatimetou Abdelmalik, la première femme à avoir été élue maire en Mauritanie dans une commune de Nouakchott. C'était en 2001. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous.
Bon, moi je suis madame Fatimetou Abdelmalik, je suis maire de Tevraq Zeina en Mauritanie, à Nouakchott, et je suis présidente sortante du réseau des femmes élues locales d'Afrique et je suis vice-présidente pour l'Afrique du Nord.
Madame Abdelmalik, comment il faut se représenter une journée de maire et qu'est-ce que ça veut dire d'être maire dans ce pays?
Vous savez, moi je suis élue depuis 2001. Donc ça fait déjà plus de 15 ans que je suis maire. S'il faut vous décrire toutes les journées de maire, alors là, c'est des tomes et des tomes de vie. Le métier de maire, on ne l'apprend pas à l'école, hein, on ne l'apprend pas à l'université. Donc c'est avec la relation avec les gens, c'est la proximité que nous avons avec les citoyens que nous pouvons apprendre beaucoup de choses d'eux. Quand j'ai été élue très tôt en 2001, je me suis dit, voilà, je vais laisser la porte ouverte. Tout citoyen a l'accès facile au maire. Donc il n'a pas besoin de prendre rendez-vous, il peut venir à tout moment. Je me dis souvent que le service public, c'est un service public qui a été créé pour rapprocher les services des citoyens. Donc il n'y a pas de raison qu'on le ferme devant eux parce que c'est les citoyens la raison d'être de ce service-là.
Est-ce que vous vous voyez aussi peut-être comme une sorte de lien ou de courroie de transmission entre la population de votre commune et le pouvoir central?
Le citoyen, tout ce qu'il a comme problème, tout ce qu'il a comme préoccupation, tous ses besoins sont posés sur la table du maire, de l'élu local. Donc, j'ai souvent dit aussi que le citoyen, il peut mourir sans serrer la main d'un ministre, par exemple. Il peut ne pas connaître d'ailleurs ses ministres, mais il ne peut pas ne pas connaître son maire. Il ne peut pas mourir avant de serrer la main de son maire. C'est lui le représentant légitime de ses citoyens. Il lui incombe de lever à d'autres niveaux, justement, les préoccupations et les besoins de ces populations.
Si on prend un problème concret, par exemple, je ne sais pas, l'accès à l'eau potable, peut-être?
Pour un peu planter le décor, moi je viens d'une commune de Nouakchott, que j'ai l'habitude d'appeler capitale de la capitale, parce qu'elle concentre les principales infrastructures socio-économiques du pays. C'est là où elle héberge les sièges des pouvoirs exécutif et législatif, donc la quasi-totalité des missions diplomatiques, des organisations internationales, c'est un peu la capitale de la capitale. Alors, ce qui fait que j'ai un tissu social contrasté, donc j'ai des pauvres et j'ai des riches. Et donc j'ai fait un grand effort pour concilier entre ces deux segments de population. Maintenant, il est prévu que tout le monde soit raccordé à l'eau. Et on fait un grand effort pour justement ravitailler ces quartiers à nous. Donc, on interpelle le gouvernement, on interpelle les départements du gouvernement qui sont en charge de la thématique pour justement œuvrer avec nous à ce qu'on mette en place les structures nécessaires pour que les citoyens aient accès à ces services en corps de base qui est important.
Et est-ce que vous avez l'impression justement d'être écouté par cet échelon de pouvoir, le gouvernement? Parce que par exemple, le raccordement à l'eau pour quelqu'un qui est haut placé dans les autorités, c'est peut-être pas un sujet aussi sexy peut-être que si on lui propose d'aller à l'inauguration d'une nouvelle route ou d'un nouvel aéroport, etc., où il peut poser avec les journalistes, etc. Comment intéresser des gens qui sont haut placés aux problèmes vraiment des populations, des problèmes locaux?
Et moi, je suis parmi ceux qui pensent aussi et qui disent toujours que si on se fait respecter, si on se fait entendre, on va nous entendre. Si on se laisse faire, on va nous marcher dessus.
Madame Abdelmalik, les objectifs de développement, les objectifs de l'ONU, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes là-dessus?
Les ODD, on les appelle communément les ODD, qui ont été adoptés en septembre 2015 à New York. Donc j'étais là pendant l'adoption. On a tendance à localiser les villes, les collectivités locales et régionales dans l'ODD 11, parce qu'on parle de villes et de communautés. Mais moi, je suis parmi ceux qui disent que tous les ODD sont locaux, parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre un ODD en dehors d'un territoire. Donc, nous, nous sommes encore une fois mieux placés que quiconque pour garantir des institutions responsables, transparentes, inclusives, attentives aux droits et aux besoins des citoyens. Mais pour cela, il faut deux préalables. Il faut une bonne décentralisation dans nos pays. C'est ce qui n'est pas au point tout à fait en Afrique, malheureusement. Mais il faut aussi des moyens qui accompagnent cette décentralisation. Parce que je ne le dirai jamais assez, le développement est d'abord local avant d'être autre chose.
Et c'est vrai que cette question d'urbanisme, j'imagine qu'en tant que maire, ça vous préoccupe tous les jours, avec une population qui croît très vite aussi. Vous parliez tout à l'heure de rapprocher les riches et les pauvres. Comment faire, par exemple, dans une ville pour que on n'est pas, au bout d'un certain temps, des bidonvilles qui se créent?
Vous savez, la gestion de l'urbain, c'est le casse-tête pour nous, élus locaux. Donc parce que Nouakchott, je n'ai une ville où un pays qui a connu des années de sécheresse répétées, donc ce qui a occasionné un exode rural important, en bousculant les modes de vie des populations et en perturbant un peu les priorités. Donc il y a une urbanisation anarchique au niveau de Nouakchott. En tant qu'élu local, avec des stratégies, avec des politiques locales, nous sommes en mesure, autant que faire se peut, d'appréhender toutes ces problématiques à travers des programmes d'aménagement, des programmes qui s'adressent aux vulnérables pour un peu concilier. Comme j'avais dit, il faut être fort, il faut se dédoubler en deux maires, pour avoir un maire pour les pauvres et un maire pour les riches, parce que, encore une fois, les besoins ne sont pas les mêmes, donc il faut concilier entre tout ça.
Vous pouvez notamment nous dire un exemple?
Oui, notamment les femmes, les jeunes, l'éducation. On accompagne en mettant en place des programmes de cours de rattrapage, de renforcement de connaissances pour ces élèves-là, issus de familles démunies, pour qu'il y ait une mise à niveau et pour qu'ils puissent fréquenter des écoles, même parfois d'excellence. Nous avons des programmes aussi pour les accompagner en termes de fourniture, en termes d'équipement, etc., en termes même de cantine scolaire, parce que nous prenons en charge parfois les petits-déj des enfants, des plus démunis, pour qu'ils aillent à l'école correctement.
On va revenir tout de suite sur la question des femmes, mais une dernière question sur cette thématique de l'urbanisation. Mm-hmm. Est-ce que ça ne rentre pas en collision avec des projets, par exemple, de modernisation de la ville? Parfois, il faut aussi déplacer des populations.
Bon, vous savez, Nouakchott, d'une manière générale, comme j'avais dit, c'est une ville encore récente. Elle est née au moment de l'indépendance, donc moins de 60 ans. Et elle a connu cet afflux du rural vers les centres urbains, notamment Nouakchott, et l'apparition de certains quartiers un peu précaires. Donc l'État a pris en charge justement cette thématique-là à travers la restructuration de ces quartiers précaires, le recasement de ces populations dans des zones où désormais chacun dispose de son lot à lui, avec les infrastructures de base nécessaires, l'école, point de santé à côté et peut-être une borne fontaine. Donc au niveau de ma commune, moi je n'ai pas ce lot de quartiers précaires en tant que tel. J'ai surtout ce qu'on appelle dans notre jargon à nous les gardiens. Et c'est des gens qui viennent squatter un peu un espace public parce qu'ils ont un rôle de garder un ménage ou de garder une institution, etc. Ils restent là pour de bon. Parce qu'encore une fois, ça leur coûte moins cher. Il arrive que la commune accompagne aussi en fonction du degré de vulnérabilité de la famille. Donc voilà.
Pour en revenir aux femmes, est-ce que au cours de votre long parcours depuis 2001, vous avez eu à vous-même rencontrer des difficultés ou des discriminations?
Chez moi, en Mauritanie, la femme, vous savez, elle a une place relativement privilégiée. D'abord, la femme garde son nom. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas de problème. Elles ont d'autres problèmes, notamment au niveau politique. Et ça, la responsabilité incombe à elles en tant que femmes parce qu'elles ne prennent pas conscience de l'intérêt qu'elles ont et du rôle qu'elles ont dans le développement de la société, mais aussi aux différents partis politiques et leur directoire qui ne donnent pas une part à la femme, l'amenant à se positionner dans la sphère de décision. Par exemple, les femmes chez nous, même si elles dépassent 51%, donc c'est plus de la moitié de la population, donc rien qu'à elles seules, elles peuvent gagner les élections si elles se positionnent. Alors, ces femmes-là, elles ont tendance à se positionner derrière le mari, le père, le frère, le cousin, mais pas elles. Donc c'est elles qui anime les élections, c'est elle qui mobilise et c'est elle qui vote. Donc, mais tout
mais
ça,
c'est pas elle qui est élue.
C'est pas elle. Maintenant, nous, moi en tant que personne, en tant que femme, je n'ai pas rencontré de discrimination en tant que telle dans mon travail. Au contraire, je suis respectée. Mais toutes les femmes ne sont pas arrivées à se positionner justement pour être mère, par exemple. En 2001, j'étais la seule mère en Mauritanie. Aujourd'hui, nous sommes 5. Il y a 2 niveaux, encore une fois, de responsabilité. Les femmes doivent prendre conscience que le développement va se faire avec elles et que la société n'avancera pas sans elles. Donc, elles ont intérêt à se positionner dans les listes électorales. Mais il faut aussi que les partis politiques s'intéressent à ça. Le gouvernement a fait ce qu'il peut. On a 9 femmes qui, avec un portefeuille ministériel sur 24. C'est extraordinaire. Et de surcroît, certains départements de souveraineté. On a eu les affaires étrangères, on a la fonction publique, on a eu la santé. Donc, c'est des départements vitaux qui ont été attribués à des femmes. On a instauré un quota pour dire, voilà, une liste n'est pas éligible si elle n'a pas tel
nombre de femmes
dans la liste. Nous, on aspire à la parité. Je pense que le président est de notre côté. Donc, on va continuer à pousser pour qu'on y arrive.
Madame Abdelmalik, merci.
Merci à vous.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Fatimetou Abdelmalik et Constance von Kotze. Pour nous écrire, adressez vos emails à français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine.
يوفى ماشي الخطره معروف على اولها.